Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Un sondage réalisé par l'Institut Vérian pour la Fondation Jean Jaurès et l'Opinion dessine le panorama des émotions suscitées par la dissolution de l'Assemblée nationale et la campagne éclair qui s'en est suivie. Les Français sont majoritairement fatigués, déboussolés, peut-on lire dans les pages de l'Opinion. Les Français entre colère et peur. Une inquiétude grandissante, une majorité des Français... 71% ont peur de voir des manifestations violentes éclater à l'issue des résultats, selon un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. L'Union européenne voit arriver le scénario d'une France dirigée par l'extrême droite avec angoisse, car même si elle a perdu de son influence et de sa puissance, la France, patrie des droits de l'homme et des Lumières, conserve une place à part dans le concert des nations. Qu'elle s'aventure sur le même chemin populiste qu'ont emprunté les États-Unis, le Brésil, la Hongrie ou l'Italie pour libération. Les procurations sont un réflexe de peur pour le point. Vers un match de la peur entre le RN et le NFP du second tour pour RMC. La Croix. La forte participation observée pour le premier tour des législatives semble contredire l'idée d'un parti des abstentionnistes toujours plus nombreux. Les électeurs sont aujourd'hui plus critiques et moins disciplinés. Les consignes de vote, les réponses sont plutôt embarrassées. Beaucoup appelant à la modestie par rapport à des consignes de vote qui ont de moins en moins de poids.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Législative vers une quadrangulaire dans la 8e circonscription du Rhône. À l'issue du premier tour des élections législatives, 4 candidats sont qualifiés et aucun d'entre eux ne veut se retirer. Dans la 9e circonscription du Rhône, le candidat du Nouveau Front Populaire, arrivé 3e lors du premier tour des élections législatives de dimanche, a décidé de se retirer. La décision est claire, nous ne voulons pas avoir un député du Beaujolais qui soit RN. Des propos recueillis par BFM Lyon. Le mardi 10 septembre, Villefranche-sur-Saône sera une ville étape du Tour Alternatiba 2024. Pour connaître l'histoire du mouvement non-violent ou rejoindre les bénévoles, Alternatiba organise une projection débat du film Irinzina de Sandra Blondel et Pascal Henquin ce mardi 2 juillet à 20h au cinéma Les 400 Coups à Villefranche-sur-Saône. Pour nous en parler, Anne-Sophie, membre d'Alternatiba.
Alors c'est un documentaire pas hyper récent, pas de cette année, mais qu'il y a quelques années déjà, et qui effectivement permet de montrer la dynamique de mobilisation citoyenne autour de la question du climat, des mobilisations citoyennes dont on a bien besoin aujourd'hui. C'est un film documentaire qui permet de montrer un peu comment, fondé sur des idées de solidarité, de partage et de répartition de richesses ou de valeurs en tout cas, comment un groupe se met en marche pour arriver à créer un mouvement pour le climat qui va quand même donner lieu à des avancées impressionnantes pour la population française sur les dernières années. C'est un documentaire qu'on rediffuse avec Alternatiba Beaujolais ici au 400 coups, avec un très chouette partenariat au 400 coups qu'on remercie bien, qu'on rediffuse dans le cadre du Tour Alternatiba. Oui. Le Tour Alternatiba, c'est une action aussi de mobilisation citoyenne qui a débuté le 2 juin dernier à Nantes, et qui est le départ à vélo à travers la France sur plus de 5800 km et qui sera de passage à Villefranche en septembre prochain.
Très bien, donc j'imagine qu'il y aura une mobilisation, non ?
Oui, alors
un rendez-vous ?
Exactement, il y a le Tour Alternatiba, donc je disais c'est 5800 km à vélo entre Nantes, donc le 2 juin ils sont partis, en ce moment ils sont à Créteil, à Roigny, à côté de Paris.
Dans
l'Île-de-France. Et donc ils seront le mardi 10 septembre, à noter sur tous nos agendas, le mardi 10 septembre à Villefranche, et on les accueillera avec une grande parade à vélo, avec un partenariat avec plein d'autres associations ici sur le territoire, pour effectivement arriver à se resserrer les coudes, arriver à se dire qu'un autre monde est possible et que c'est par la solidarité qu'on va pouvoir faire face aux catastrophes climatiques et sociales qui pointent quand même leur bout de leur nez.
Effectivement, puisque le mouvement Alternatiba, il est sur une défense en quelque sorte du climat et la justice sociale. Hein, c'est les deux priorités.
Hein, exactement. On dit très souvent que, on sait aujourd'hui que c'est les accords de Paris, l'objectif de l'accord de Paris qui était de limiter un réchauffement mondial global à 1,5 va être difficile à tenir. Et on dit que chaque dixième de degré compte, c'est-à-dire que avoir le grand soir et gagner la bataille contre l'arrêt de la production du CO2, c'est une dure bataille. Donc, il faut qu'on trouve des petites victoires à chaque fois. Et c'est vrai que les récentes politiques ont pu apporter des choses positives sur le tri des déchets. Je pense, par exemple, sur la décarbonation de quelques-unes de nos industries. Mais il reste quand même beaucoup à faire. Et c'est dans la solidarité et dans la justice sociale qu'on pourra y arriver. Les moyens financiers, ils existent, mais il faut qu'il soit bien fléché vers les bonnes politiques. Et la justice sociale, on l'entend aussi par le fait qu'il est important que ce ne soient pas les personnes des classes populaires qui portent le poids de cette décarbonation de notre économie, mais que ce soit celles qui ont les moyens, et notamment les très grosses industries qui ne sont pas assez taxées, et le principe du pollueur-payeur devrait être beaucoup plus mis en avant. Donc c'est effectivement chez Alternatiba quelque chose d'important pour nous de mobiliser dans toutes les couches sociales pour montrer qu'on ne pourra pas vaincre les catastrophes climatiques qui nous arrivent tout le temps sur le dos sans que tout le monde soit mobilisé et qu'il y ait une juste répartition des efforts.
Donc c'est dans cet esprit-là effectivement que vous donnez rendez-vous donc aux 400 coups.
C'est rendez-vous demain soir, mardi 2 juillet à 20h aux 400 coups pour une projection de ce documentaire Irine Zina, et il y aura un stand Alternatiba et de quoi s'engager auprès de nous pour le tour Alternatiba.
Face au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants basques font le pari de construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancent un grand mouvement non violent pour le climat, Alternatiba. La projection du film Irine Zina de Sandra Blondel et Pascal Henquin, ce 2 juillet prochain à 20h au cinéma Les 400 coups à Villefranche-sur-Saône, sera suivie d'un débat avec le mouvement Alternatiba. Puis, rendez-vous tout de suite avec Odile Grisard, agricultrice à Charenté. Elle nous ouvre les portes de son domaine.
Alors, c'est l'exploitation qui vient de la famille de mon mari, agriculteur de père en fils depuis plusieurs générations. Ils sont arrivés à Charenté en 1930. Ils ont acheté un gros domaine. Oui, en production agricole, vaches laitières, polyculture. Et puis, à l'époque, toute la petite basse-cour, les lapins, tout ce qui allait avec. La maman de mon mari a travaillé là toute sa carrière. Son père, à lui, est décédé quand mon mari était jeune, 17 ans, donc il a repris derrière le flambeau. Donc il est installé depuis 1980. Depuis 80, il a beaucoup fait évoluer l'exploitation. On cultive à peu près 200 hectares aujourd'hui et nos enfants commencent à nous rejoindre.
Alors, vous avez évolué aussi également dans votre façon de pratiquer ce métier petit à petit.
Oui, totalement. L'évolution, on l'a faite de différentes manières. Tout d'abord, il a fallu, pour une question économique, réduire un petit peu tout ce qui était les phytos. Et on s'est rendu compte que finalement, on peut travailler en réduisant beaucoup. Donc aujourd'hui, on tend à... Alors, non pas zéro phyto, c'est un petit peu compliqué, mais le minimum possible, beaucoup travailler la terre, remettre des plantes qui régénèrent le sol, comme du trèfle, des luzernes. Et on essaye d'être le plus autonome possible. Donc jusqu'à maintenant, on achetait un petit peu d'aliments entre la période janvier-février, on achetait un peu d'aliments, notamment des compléments protéinés pour nos bovins. Et là, cette année, on a remis en culture des pois. Donc théoriquement, on ne devrait pas du tout acheter d'aliments et être totalement suffisant.
Donc c'est ça, un retour effectivement à une autonomie complète, oui. C'est un petit peu l'objectif.
Hein. Exactement.
Et c'est possible, mais avec 200 hectares.
On devrait y arriver. On devrait y arriver. On l'est déjà au niveau des bovins. Tout ce qui naît chez nous est conduit jusqu'à l'abattoir, quel que soit l'âge, et on n'achète rien. Trèfle, luzerne et surtout le pois qui va apporter la protéine. On a mis 7 hectares de culture de pois que l'on va récolter demain.
Et qui est donc une production qui est réservée pour les animaux.
Pour les bovins, oui, c'est du pois pour les bovins.
Très bien. Et aujourd'hui, donc effectivement, c'est un souhait de vouloir aller de plus en plus sur de la biodiversité en quelque sorte.
Oui, exactement. Contrôler, surtout contrôler ce que l'on peut faire. Voilà, s'affranchir de tout élément externe.
C'était Odile Grisard, agricultrice à Charenté. Brevet des collèges, deuxième journée avec les élèves de troisième, une deuxième journée donc qu'ils passeront avec l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique, puis les sciences. Avec près de 860 000 candidats, deux jours d'épreuves. Les épreuves écrites du brevet que le gouvernement sortant veut réformer pour en faire un véritable examen d'entrée au lycée dès l'an prochain. Une évolution en suspens dans un contexte politique très incertain. Le brevet qui atteste des connaissances et compétences acquises en fin de collège à l'issue de la classe de 3e se compose d'une partie de contrôle continu ainsi que d'épreuves finales. Il est noté sur 800 points au total, 400 points de contrôle continu et 400 points d'épreuves finales. Français, mathématiques, histoire géo, sciences et orales. Il faut décrocher au moins 400 points pour l'obtenir. La réussite au brevet dont l'ancêtre, le BEPC, a été créé en 1947 ne conditionne pas le passage en seconde. À l'avenir, l'obtention du brevet conditionnerait à partir de la saison 2025 l'accès direct au lycée. Les élèves qui ne l'obtiennent pas devant rejoindre une classe prépa seconde. Cette classe prépa seconde doit être expérimentée dès la rentrée prochaine sur base du volontariat dans une centaine de lycées français, au moins un par département. Mais la généralisation de ce dispositif de prépa seconde prévu l'année prochaine doit encore être entérinée, tout comme la réforme de l'examen en lui-même prévue pour la saison 2025.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.